c'est reparti pour un tour.
Arthur, on est bon?
Captain Ventus speaking, we are okay.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30.
Beaucoup de local et un peu d'autres choses.
Sonotone.
Ok.
Lunettes.
Ok. Question édito.
Ok.
Et parfois des redis.
Génial.
Décollage immédiat pour les matinales de Bartas.
Sur le 107 FM.
La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107. Nous sommes le lundi 31 juillet, il est 8h30, au programme de cette matinale. Nous serons dans un instant avec Juliette de Massy, elle est directrice artistique du tout petit festival. Le festival, c'est ce week-end à Saint-Germain-de-Calberte. De la musique classique donc au programme, on en parle avec elle dans un instant. Et en deuxième partie d'émission, Léo était au Marvelous Pop Festival, c'était le week-end du 14 juillet dernier à Marvejol. Il y a rencontré deux compagnies, on écoutera son reportage tout à l'heure. Il y aura de la musique comme d'hab et c'est parti, vous êtes bien sûr Bartas, on y va pour l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. Peu à peu, la justice entre dans une nouvelle ère, celle des procès anti-climat. Le jeudi 27 juillet dernier, le programme des Nations Unies pour l'environnement a fait le point sur ces affaires d'un nouveau genre en publiant son troisième rapport sur les contentieux climatiques. Il fait l'état des lieux des 2180 dossiers judiciaires qui portent sur le droit, la politique ou la science du changement climatique, recensés par la base de données du Sabin Center for Climate Change Law, la plus complète du monde. Partout sur la planète, des militants, des militantes utilisent l'arme judiciaire pour faire progresser l'action en faveur du climat. Mais, dans le même temps, ces dernières années ont vu la multiplication des procès anti-climat ou du backlash cases. Menés par des entreprises, des gouvernements ou de simples citoyens, ils visent à retarder ou à stopper les actions climatiques. Et dans les prochaines années, je cite, il est probable que l'on continuera à intenter des actions en justice pour freiner les progrès en matière d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à ses effets, note le rapport. Les États sont de plus en plus traînés en justice par les investisseurs étrangers en raison de leurs mesures climatiques et environnementales. Les résultats sont pour le moment partagés. Si par exemple le gouvernement des Pays-Bas réussit à se défendre devant les juges européens, évitant de payer des dédommagements aux entreprises fossiles à cause de sa politique prévoyant la sortie du charbon du pays, l'État colombien, lui, risque de devoir débourser des centaines de millions de dollars de dommages et intérêts à une entreprise qui s'appelle Eco Oro, une entreprise canadienne qui extrait de l'or et de l'argent dans le Paramo de Saturban, pardonnez mon espagnol. Ce jugement a mis en lumière l'un des principaux problèmes qui entravent les efforts d'atténuation du changement climatique, le raisonnement du droit économique international. Depuis les années 60, grâce à un processus très complexe d'application de techniques juridiques, les entreprises transnationales sont souvent en mesure de placer leurs intérêts au-dessus de la réglementation des États. Les conséquences sont néfastes et irréversibles. Si ça vous intéresse, auditeurs, auditrices, je mets le rapport de l'ONU sur notre site dans un instant. Mais je vous préviens, si vous êtes éco-anxieux, ne le lisez pas, ça va vous retourner le ventre. Ah, intérêts économiques et climatiques ne font décidément pas bon ménage. Et voilà, de retour en plateau, et si tout va bien, nous sommes avec Juliette de Massy par téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Ah, tout marche bien. Ça va la forme?
Ouais, super.
Juliette de Massy, directrice artistique du tout petit festival de Saint-Germain-de-Calberte. Ça commence ce 3 août. C'est l'été, ça bat son plein. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est toujours un plaisir de t'accueillir sur cette antenne pour parler de musique classique.
Ouais,
alors, cette année, le festival a pour thème Temps suspendu. On en a besoin en ce moment. C'est bien pour ça que vous avez choisi ce thème cette année?
Oui, alors, il y a eu tout un... C'est une sorte de thème, ou plutôt de... C'est pas vraiment un thème, mais c'est plutôt comme une mission, quoi, qu'on pourrait avoir avec ce festival pour essayer effectivement de suspendre un peu la frénésie générale et puis de vraiment prendre soin de ce qu'on peut vivre ensemble, c'est-à-dire ensemble les artistes, les musiciens, le public, bien sûr, mais aussi tous les bénévoles, toute l'équipe, parce qu'un festival, c'est pas seulement des artistes et des musiciens, parce que là c'est un festival de musique qui viennent, mais aussi toute une petite ruche de personnes indispensables et magnifiques qui agissent beaucoup et qui font que c'est rendu possible, quoi.
Fait un petit moment maintenant que le festival existe, en 2010 je pense la première, c'est ça?
Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. On a commencé chaque année et puis maintenant c'est une biennale, donc ce festival a lieu tous les deux ans.
Mmh. Alors, Chahu, c'est l'asso qui organise ce festival. Quand et comment elle est née, cette asso, et in fine le festival, bien sûr?
Alors, ça a été une histoire un peu de rencontre. Donc moi, j'ai grandi dans les Cévennes, c'est là que j'ai commencé à faire de la musique, du chant, et puis on fait toujours des concerts un peu dans tous les lieux possibles pour faire de la musique, et le temple de Saint-Germain s'y prête quand même vraiment bien pour son acoustique, mais pas que, parce que son acoustique peut être aussi un peu difficile, mais pour le lieu que c'est, parce que c'est un lieu magnifique, un espace magnifique qui permet vraiment de faire beaucoup de choses. Mmh. Et puis voilà, c'est une histoire de rencontre, en particulier avec Jean-Pierre et Hermione Lynn, qui ont la maison qui jouxte juste le temple et qui s'appelle La Capelle, qui sont une famille qui vit là en partie entre Londres et ici, et qui aime particulièrement la musique. Ensuite, plein de choses qui se sont faites, qui ont fait qu'on a eu envie de créer ce festival. Et puis du coup, au départ, c'était quand même très très informel, et puis petit à petit on a formé cette association qui s'appelle Chahu Musique en Cévennes, et qui maintenant organise bien sûr le festival en biennale, mais propose aussi des résidences tout au long de l'année à Saint-Germain, des résidences de compositeurs, des résidences de création. Il y a aussi, là en ce moment, il y a un plasticien qui est là un peu en résidence. Enfin, voilà, donc on essaie d'imaginer vraiment beaucoup de choses. Et ça fait vivre le village et ça fait rencontrer vraiment ça se fait rencontrer des gens, quoi. Donc c'est beau.
Ouais, c'est très complet. Ouais. Alors, il commence le 3 août, ce festival, mais il faut dire qu'il a déjà un peu commencé grâce à différents ateliers qui sont proposés depuis fin de semaine dernière et qui continuent toute la semaine, c'est ça?
Ouais, exactement. Donc ça nous tient vraiment à cœur pendant le cours du festival. Donc le festival en général dure entre 3 et 4 jours. Je parle du moment où il y a des concerts proposés. Donc là cette année c'est 3 jours. Donc du jeudi au samedi, il y a 2 concerts par jour. Mm-hmm. Mais en effet, en fait, tout au long du festival, on propose aussi des ateliers. Et là, et souvent on les fait commencer un peu en amont du festival. Et cette année, il y a plein de sortes d'ateliers différents. Il y a un plasticien qui est là, qui s'appelle Johnny Le Bigot, qui crée des sculptures végétales, qui propose vraiment un rapport d'abord à la promenade, puisqu'il propose des balades sur les sentiers pour aller chercher des végétaux, créer même des sculptures végétales sur les lieux. Et puis ensuite aussi ramener des matériaux pour travailler des choses plus sur le village. Et donc lui, il a commencé les ateliers hier. Donc en général, il propose une promenade le matin et ensuite des ateliers de confection l'après-midi. Ça se passe à l'école de Saint-Germain. Il va y avoir aussi des ateliers de coiffe aussi végétale qui vont se passer avec Pascal Nandillon. Ça commence demain. C'est le matin de 10 à 13. Et ça a lieu 2 jours, puis ensuite c'est des coiffes qui vont être utilisées dans une espèce de studio photo, un peu à la manière des studios photo de brousse, où les gens vont pouvoir venir se parer, se coiffer, se maquiller, puis être pris en photo. Mmh. Et à partir de mercredi, on a des ateliers plus de voix, en fait, enfin musicaux. Là, c'est un peu axé sur le chant et la percussion corporelle. Et donc ça, ça a lieu avec quatre intervenantes différentes, Noémie Capron, Louise White, Lucie Delmas et Nina Linville. Et ça, ça a lieu donc les après-midi de 15h30 à 17h30 à partir de mercredi. Et voilà, donc c'est très, très divers. C'est des ateliers qui sont ouverts à tous, aux familles. Bien sûr, les enfants petits doivent être accompagnés par des adultes. Mais voilà, et il y a une petite restitution à la fin, le samedi, des ateliers, après le spectacle qu'on propose, qui est un spectacle jeune public.
Oui, on va en parler de la programmation. Alors, tu l'as dit, c'est une biennale, et en 2021, vous avez lancé la nuit musicale, et si je ne m'abuse, ça revient cette année avec 7 musiciens, musiciennes, dont toi, évidemment.
Tout à fait. Ben, en fait, c'était... On avait créé ça un peu par la force des choses, puisque 2021 a été, comme tout le monde le sait, une année un peu compliquée, puisque c'était suite Covid, en plein Covid plutôt. Mm-hmm. Et donc, on savait, jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas si le festival pourrait avoir lieu. Finalement, les choses avaient pu avoir lieu. Mais il était important de faire des choses dehors, ce qu'on n'avait en fait jamais vraiment fait, en fait, qu'on n'avait pas vraiment osé, parce que faire de la musique dehors implique plein de questions techniques. Là, par la force des choses, on l'avait fait, et donc on avait imaginé une nuit musicale un peu continue, et en fait ça a été tellement beau il y a 2 ans qu'on a eu très envie de continuer. Mm-hmm. Donc ça, c'est il y a un petit noyau de musiciens. L'idée, c'est qu'il y ait des musiciens qui ont joué au festival par ailleurs, dans des restals ou des concerts, qui se rencontrent. Donc il y en a, moi je les connais tous puisque c'est moi qui leur propose de venir, mais eux-mêmes ne se connaissent pas forcément ou se sont croisés, mais en tout cas n'ont pas forcément fait de la musique ensemble. Et on a travaillé tous ensemble un programme grâce à la visio quand même. On a pu tous se rencontrer plusieurs fois en visio, et puis là on va se retrouver dès demain tous ensemble, et puis on travaille une sorte de programme continu qui va durer au moins 5 heures, qui va proposer de la musique de 19h à minuit, 1h voire plus, parce que c'est une nuit qui propose vraiment une programmation musicale qui autour de la musique écrite, mais surtout qui va rendre cette musique écrite dans un regard complètement différent, parce qu'on la tisse de musique improvisée. Et voilà, donc ça peut aller, les moments de musique improvisée par définition ne sont pas du tout mesurés, et du coup ni mesurables, et du coup ça peut aller loin, enfin autant qu'on le souhaitera avec le public. Voilà.
Et comme tu l'as dit, j'ai lu sur votre site chahut-musique-en-cévennes.fr que cette année ce sera quand même un peu plus élaboré, en fait, justement grâce à la visio.
Complètement, ouais, et puis aussi parce que fort de l'expérience qu'on a eue il y a 2 ans, où voilà, c'était plus on avait fait vraiment une rencontre assez festive de musiciens, et ça faisait vraiment du bien dans le contexte que c'était. Et là vraiment c'est une nuit en tout cas plus structurée, et à la fois qui est où la place de la musique improvisée finalement sera plus forte. Donc il y aura vraiment des moments de musique écrite, mais qui sont eux-mêmes parsemés de musique improvisée. La scène est un peu déconstruite. Enfin, voilà, j'espère que vous viendrez tous vous ruer pour assister à cette nuit qui devrait être quand même assez belle.
Un grand moment en perspective, c'est sûr. Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux cette année, ou finalement la formule est gagnante et ça vous convient ?
Des nouveaux musiciens
des nouveautés dans ce que vous proposez. Par exemple, je me souviens plus s'il y avait eu un spectacle jeune public il y a 2 ans.
Non, alors ça, oui, ça c'est une nouveauté, tout à fait. Ça fait vraiment longtemps que j'y pense, mais il fallait trouver la bonne formule, tout ça. Bon, nos concerts sont toujours ouverts aux enfants, mais évidemment, c'est pas forcément... Bon, il y a souvent quand même des enfants, et on les encourage toujours à venir écouter nos concerts, hein, parce que...
C'est formateur.
Il y a des concerts pas très très longs, un concert d'1 heure, les enfants peuvent vraiment accrocher, il y a des choses qui sont... Mais c'est vrai que ça faisait longtemps que je me disais que ce serait bien de faire spécifiquement une chose pour le jeune public ou pour les familles, voilà. Donc là, c'est un très très beau spectacle qui n'est pas seulement un concert, hein, qui est vraiment un conte musical, puisque c'est l'histoire d'une... d'une jeune femme qui vit une grande douleur, d'une jeune fille, plutôt d'une petite fille qui vit une douleur, une grande douleur, et qui va réussir à transformer cette douleur et à la soulever pour que finalement une belle rencontre et vraiment un grand apprentissage de vie se fasse. Et donc c'est avec une comédienne chanteuse et une percussionniste, et voilà, elles proposent des arrangements musicalement, ce sont des arrangements de musique contemporaine, des chansons qu'elles ont écrites. Voilà, c'est un spectacle bien sûr en français qui est vraiment très très beau, et qui est bien sûr aussi tout à fait possible à voir que quand on est un adulte sans enfant, parce que c'est très poétique.
Faut réveiller l'enfant qui sommeille en nous.
Exactement, exactement.
En tout cas, c'est le samedi à 16h et ça s'appelle Maïti Chamboule.
Exactement.
Allons-y pour la programmation, puisque ça commencera le jeudi en deuxième partie de soirée avec un concert du duo Rizotom, je sais pas trop comment on dit.
Alors non, ça commence en fait à 19h le
avec
jeudi.
L'atelier vocal, ouais.
Ouais, avec un spectacle aussi, donc c'est pas seulement un concert, puisqu'il y a une proposition de création de lumière et vidéo, sur un spectacle avec un chœur, l'ensemble vocal de Molzon, qui est accompagné de quelques solistes de la Grande Garabagne. Et ça, une espèce de forme aussi un peu rêveuse qui propose de questionner toujours les rapports entre le dispersement et la communauté. Voilà, ça c'est des questions qui nous intéressent beaucoup avec Patrick Condé, le metteur en scène avec qui je travaille sur ce projet. Mmh. Et c'est un projet qui est un peu dans la lignée d'un projet qu'on avait fait autour du compositeur Hans Eisler il y a 4 ans. Tous ou aucun. Voilà, donc ça c'est à 19h. Ensuite, effectivement, donc c'est un duo clarinette, pas du tout, saxophone, sopranino et accordéon avec Armel Doucet et Mathieu Metzger. Donc eux, c'est un duo qui travaille. Mathieu Metzger est un saxophoniste de jazz, et Armel, elle, est une multitalentueuse artiste qui est comédienne, musicienne, compositrice, et qui, ils proposent là-dedans des compositions originales, mais qui viennent de la musique trad. Et donc, voilà, ils proposeront un concert à l'extérieur qui sera, je pense, assez festif. C'était aussi une manière d'ouvrir un peu la fête, parce que quand même ce festival c'est des moments de recueil, j'allais dire, mais de recueil d'ensembles musicaux, découvertes, parce qu'on propose beaucoup de choses qui sont peu entendues je pense ici, mais aussi quand même de rassemblement et de fête. Voilà,
ouais, c'est ça. Je suis allé un peu écouter ce qu'ils faisaient. On sort un petit peu du classique ici, mais
ouais tout à fait,
un vrai choix quoi, l'éclectisme, ça fait du bien aussi.
On essaye chaque année quand même de pas faire que de la musique classique. Alors évidemment, moi, c'est mon domaine, la musique classique. Donc pas que je préfère, mais simplement aussi par mes connaissances et mais aussi parce que finalement, c'est une manière, c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de musique contemporaine en Lozère, donc ça me plaît de continuer vraiment à la défendre. HAU, mais ça nous tient vraiment à cœur aussi de proposer d'autres musiques tout aussi belles et puissantes. Et donc là, voilà, c'est un très beau duo qui à la fois propose une chose très assez unique, puisque c'est leur composition, leurs arrangements, et à la fois qui parleront aussi à tous les amateurs de musique trad, de jazz. Enfin voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut aussi ouvrir un peu les oreilles à tout le monde, quoi.
Vendredi à 19h, ce sera au Temple, et ça commencera avec Amour et vie d'une femme.
Oui, alors vendredi, c'est une journée où il n'y a pas de concert en extérieur. Les deux concerts sont dans le Temple, et ce sont deux concerts qui sont un peu autour du piano, enfin qui se passeront. Donc le premier est un récital qui pourrait paraître assez classique, puisque ce sont des œuvres qui ont été composées au 19e siècle, en gros des pièces de Schumann pour piano et voix. Et en fait, c'est un spectacle qui est aussi mis en scène et qui a la part, donc je ne brouille pas l'histoire, mais qui a la particularité d'être, ce sont des cycles qui ont été écrits a priori pour voix de femme, mais qui là seront chantées par un baryton. Mm-hmm. Et ça a été mis en scène par une dramaturge et metteur en scène argentine qui a questionné vraiment avec le baryton la place de la femme, de l'amour en fait et du genre, voilà, grâce à ces œuvres de Schumann. Et je pense que c'est très très pertinent parce que ce sont des œuvres et des textes du coup chantés qui peuvent paraître assez vieillis quand même dans... Enfin, qui j'espère le paraissent, puisque quand même on a dépassé un peu ces questions. Enfin, on essaye de le dépasser. Et voilà. Et donc, c'est une très belle manière de questionner tout ça avec cette musique magnifique.
À 20h30, il y aura un repas proposé par Philippe Catherine et Sylvain de Nourriture.
Voilà. Oui, comme le jeudi. Hein, à chaque fois, on propose des repas entre les concerts. Mm-hmm. Ça, c'est très important. Et les artistes mangent au même endroit que le public. Donc, c'est aussi une manière de se rencontrer. Voilà.
Et à 22h, alors c'est le pianiste Marino Formanti qui sera aussi d'ailleurs sur la nuit le samedi, si je ne m'abuse, et que toi, avec qui tu avais déjà partagé la scène, il me semble.
Oui, alors Marino devient un peu aussi quand même une figure importante de ce festival. Marino Formanti est un pianiste et chef d'orchestre qui vit à Vienne, mais qui propose lui des formes de concert vraiment très très très... Enfin, il questionne toujours la forme concert par plein de manières différentes, par son répertoire bien sûr et par l'agencement d'ensembles de répertoires qui peuvent paraître très très éloignés, mais aussi par des formes où il propose par exemple un concert face à face, one to one, donc il est tout seul et il y a un de cette personne du public qui est là, ou alors il propose des concerts qui durent, où il joue dans un même lieu pendant 24 heures d'affilée, enfin voilà, c'est quelque chose qui développe beaucoup. Mm-hmm. Il joue aussi avec des metteurs en scène dans des formes scéniques, enfin voilà, c'est quelqu'un qui aime beaucoup se poser les questions du rapport au public. Et là, il proposera finalement un récital relativement classique dans sa forme, mais qui met en relation deux sonates très importantes du répertoire, mais une qui a été composée au 19e et une au début de la seconde moitié du 20e siècle par une compositrice magnifique qui s'appelle Galina Ulfskaya. Et voilà, c'est des écritures qui à la fois se répondent totalement et qui à la fois l'écriture de Galina Ulfskaya vient exploser totalement le rapport au piano, et ça c'est très très beau. Et Marino, voilà, effectivement participe très activement en plus, parce qu'on le conçoit un peu tous ensemble, collectivement, la nuit du samedi. Ouais. Tout
à fait. On y va pour les infos pratiques, les tarifs et autres.
Alors, pour les tarifs, j'ai tout bien quand même dans ma tête, faut juste que je me concentre.
À lundi matin, donc, comme ça, ça fait...
Il y a possibilité d'avoir des passes, de prendre des passes pour voir plusieurs concerts. Donc, on propose un pass festival à 50€ pour les 6 concerts. Voilà, il y a aussi un pass soutien si vous avez envie de soutenir plus le festival, parce qu'évidemment, tout ça coûte un peu d'argent et c'est un grand travail d'arriver à dans ces temps un petit peu durs quand même pour la culture, d'arriver à soulever les soutiens, quoi. Mmh. Même si on en a plein qu'on remercie d'ailleurs énormément. Et puis sinon, le tarif des concerts, c'est 10€ la place pour les adultes, 8€ pour le concert jeune public et gratuit pour les moins de 18 ans pour tous les concerts.
Voilà. Les moins de 18 ans?
Oui, je me trompe.
Ah non, peut-être pas, mais...
Non, c'est ça.
C'est génial, ça. Vraiment, adolescent, allez-y, quoi.
Voilà, ouais. Pour favoriser la possibilité que les familles puissent venir ensemble assister au concert, voilà.
En tout cas, auditeurs, auditrices, ça commence jeudi, mais pour les ateliers, les gens peuvent y aller, voilà, ils se rendent directement à l'atelier, pas besoin de réserver ou d'appeler.
Tout à fait, non, c'est possible. C'est mieux de réserver, mais c'est tout à fait possible de se rendre. Et puis il y a toutes les informations sur le site web, chahut-musiquenselene.fr. Et voilà, il y a sur internet, si on tape Chahut Musique en Cévennes ou le tout petit festival musical de Saint-Germain-de-Calberte, on devrait trouver toutes les infos nécessaires.
Et je mets le lien évidemment sur notre site dans un instant. Génial. Merci beaucoup.
Ben, merci Ben. Merci.
Avec grand plaisir, je vous souhaite un excellent festival à toute l'équipe. Profitez-en bien, vive la musique classique. À très bientôt.
À bientôt, au revoir.
Allez, dans un instant, on repart au Marvelous avec le reportage de Léo. On écoute le dernier titre du Pied de la Pompe. Oui, yeah, c'est parti.
Bienvenue aux nouveaux migrateurs. Nouvelle vie, nouveau campeur, avec un peu de savoir-faire. Apprenons ensemble à défaire et refaire de la place aux nouveaux locataires. Nouvel arrivant, nouvelle ère, aucune empreinte indélébile, juste suivre la plume qui file. Il y a tout un monde à refaire, ici au centre de l'univers. Soyons du vent dans les airs. Oubliez tout ce qui t'appartient, bout de pays, bout de terrain. Trouvez pour chacune son chacun, trouvez à qui serrer la main. Marchez, 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 découvrir, d'un bout à l'autre parcourir. Trouver son espace oxygène et puis le partager sans gêne. Il y a tout un monde à refaire, ici au centre de l'univers. Oublions, oublions les frontières, soyons du vent dans les airs. Y'a que ça, y'a que ça, y'a que ça. Que l'on se prend par la main, petit, petit bout, petit être, viens découvrir ta planète. C'est maintenant, c'est demain, qu'il faut avancer main dans la main. À chaque pas, à chaque mètre, faire en sorte que rien ne s'arrête. Il y a tout un monde à refaire, ici au centre de l'univers. Oublions, oublions les frontières, soyons du vent dans les airs. Y'a tout ça, y'a tout ça, y'a tout ça, y'a tout ça.
L'excellent groupe Le Pied de la Pompe, il y a tout un monde à refaire. Léo était au Marvelous Pop Festival, c'était le week-end du 14 juillet dernier à Marvejol. Il y a rencontré deux compagnies. Eh ben, c'est parti, on écoute ça.
On était présent avec la radio lors du Marvelous Pop Festival. La grosse chaleur était là, elle aussi, pour essayer de me décourager un maximum, mais j'ai tenu le coup, le temps d'aller voir deux spectacles et d'aller parler aux compagnies qui les présentaient. Entre fanfare, coup de klaxon et grosse bourrasque de vent, ma prise de son était quelque peu compromise ce jour-là, mais bon, on fait ce qu'on peut. Le premier spectacle, c'était du cirque contemporain par la compagnie des Hommes qui portent et des Femmes qui tiennent avec leur spectacle Vroom. Leur scénographie est impressionnante de par la taille de la structure qu'ils utilisent pour leur voltige. Outre la taille, le spectacle nous plonge dans un garage aménagé comme une chambre où deux personnages vont évoluer de l'enfance à l'âge adulte. Ils sont amis et comblent l'ennui à base de courses-poursuites, de chahuts et de chorégraphies voltigeuses.
Alors moi je m'appelle Morgane et je travaille avec la compagnie des hommes qui portent et des femmes qui tiennent avec Curtis. Ouais. C'est une compagnie que j'ai créée en 2016. On est catalogué comme cirque contemporain, mais on travaille beaucoup sur la mixité des arts, donc notamment avec toute la culture hip-hop, l'énergie du breakdance. Voilà, on essaye de faire des croisements autour de tout ça et beaucoup de danse aérienne également.
Aujourd'hui, du coup, c'était le spectacle Vroom. Depuis quand il existe, ce spectacle? Depuis quand il tourne? Et pourquoi ce nom?
Alors, le spectacle est sorti en octobre 2021, après un peu plus de 2 ans de création. Vroom, au départ, le spectacle nous est venu avec l'idée de mettre une mobylette en scène. Et puis, petit à petit, on a rajouté d'autres cycles. Donc, on a un tout petit vélo, par exemple, ou un vélo d'enfant. Et Vroom, c'était à la fois le reflet de la vitesse, de l'énergie qu'on essaye de donner tout au long du spectacle, et puis l'onomatopée qui caractérise vraiment tous ces cycles qui roulent avec nous sur le plateau. Voilà.
Vous venez d'où avec la compagnie ?
Alors la compagnie est de région centre, on a notre siège social à côté d'Orléans, à Saint-Denis-en-Val.
Je vois toute l'infrastructure, toute la scénographie autour, ça doit être compliqué à trimballer à droite à gauche. Comment vous organisez pour faire ça ?
Alors, je suis l'as du Tetris et du rangement. Tout est démontable et du coup, on a un petit camion slash grosse fourgonnette et on arrive à tout caser dedans. Mais alors vraiment, chaque chose a sa place et on ne peut pas du tout être aidé pour le rangement pour le coup parce qu'il faut tout connaître par cœur.
Vous avez 2 spectacles avec la compagnie, ça fait comme un moment qu'elle existe, c'est les mêmes infrastructures à chaque fois ou alors chaque spectacle a son rangement précis?
Alors on a un peu plus de 2 spectacles, on a un 2e spectacle qui est sur cette structure effectivement qui s'appelle Face à Block Party, donc là c'est vraiment une traversée didactique du monde hip-hop à travers notre corps circassien, donc le plateau est beaucoup plus nu, on a juste le portique et puis nos 2 agrès de spécialité, donc les sangle aérienne pour Curtis et le cerceau aérien pour moi. Et sinon, par exemple, on a un autre spectacle qui s'appelle Pneus avec 3 garçons sur scène et 25 pneus. Donc là, c'est un autre portique qui n'est pas du tout celui-là et on fait construire actuellement une nouvelle structure avec des volumes inédits pour 2025. Donc on se réinvente.
Le spectacle, il parle de la, un peu de la rencontre de 2 personnes, enfants, qui continuent à se côtoyer jusqu'à peut-être l'âge adulte, des amis. Est-ce que c'est un peu inspiré de votre relation avec Curtis? Vous connaissez depuis quand? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des inspirations de jeunesse, sinon?
Alors, c'est pas du tout inspiré de notre rencontre à nous. Nous, on s'est rencontrés en 2016. Moi, je terminais ma formation professionnelle des arts du cirque à Balthazar, Centre des arts du cirque. C'est une formation professionnelle à Montpellier. Curtis commençait sa formation. Et l'histoire, elle nous est venue vraiment en travaillant petit à petit sur le propos qu'on avait envie de délivrer, donc à savoir un message d'amitié. On avait envie, c'est un spectacle qu'on joue aussi beaucoup pour les scolaires, on avait envie d'abolir complètement cette barrière de sexe, qu'un garçon peut être ami avec une fille. C'est vraiment complètement détaché de notre vie personnelle à nous, mais un travail sur voilà, l'écriture du spectacle et ce qu'on avait envie de raconter.
Là, c'est l'instant bain de pied après le spectacle, j'imagine, pour les brûlures. Est-ce qu'il y a d'autres blessures qui peuvent arriver dans les représentations?
Alors, les brûlures, a priori, c'est la moins grave, mais c'est pénible. Parce que là, donc, pour ceux qui ne nous voient pas, on est sous le soleil, on joue sur un tapis de danse, c'est un espèce de lino noir qui absorbe toute la chaleur. Donc, si on cassait un œuf sur le tapis de danse, là, actuellement, on pourrait manger un œuf sur le plat et faire griller des lardons. Donc, on a les pieds un peu brûlés quand on joue pieds nus, mais en théorie, en spectacle, il n'est pas censé y avoir de blessures. Les blessures, elles peuvent arriver plutôt à l'entraînement. Et ensuite, tout ce qu'on présente devant le public, c'est des choses qu'on est sûr de maîtriser à 200% pour que justement, il n'y ait aucun risque.
Oui, du coup, il n'y a plus aucune frayeur sur la moindre figure, sur la moindre... Ou alors, il y a quand même des moments où certaines représentations où il y a, je sais pas, un vent un peu fort, quelque chose qui peut déstabiliser.
Non, a priori, le vent peut faire envoler un peu les sangles de Curtis et qu'ils doivent sauter pour les attraper, mais pas de blessure en vue.
Le spectacle existe depuis 2021. Il y a eu des changements depuis sa première représentation ou tout est resté identique, très cadré, très...
Il y a eu quelques changements. Le plus gros changement qu'on ait fait, c'est de me remplacer pendant 9 mois, puisqu'on a accueilli il y a 4 mois notre fille. Et donc, ma remplaçante faisait du trapèze, par exemple, à la place du cerceau. Et sinon, quand on sort un spectacle, en fait, et qu'on joue la première, après, il y a ce qu'on appelle un temps de rodage. Et donc, tout ce qu'on a pu écrire, en fait, se lisse, se peaufine. Il y a des petites choses qui, peut-être, viennent à changer parce que il y en a d'autres qui nous paraissent plus naturelles de faire à ce moment-là. Donc, le spectacle est vivant et c'est pas pour rien qu'on utilise ce mot.
Et du coup, ouais, il y aura sûrement des changements dans le futur, déjà des idées en tête, de petits trucs qui peuvent changer ou pas ?
Non, rien de spécial en tête. Et a priori, c'est un spectacle dont l'exploitation ne va pas encore durer des années. Donc là, je pense qu'on va le jouer encore tel qu'il est. Et puis après, on sortira un nouveau spectacle, on continuera d'en tourner d'autres qui sont sortis il y a peu de temps.
J'imagine que vous êtes un peu en tournée. Où est-ce qu'on peut vous retrouver cet été ?
Avec Vroom, on a Bruges et on a le Havre encore le 8 août. Avec le spectacle Pneu, vous pouvez nous retrouver le 24 août à Frontignan, au bord de la mer, les pieds dans l'eau. Ou le 16 septembre à Fleury-les-Aubrais en région Centre-Val-de-Loire. Et avec le spectacle Face à Block Party, vous pouvez nous retrouver le 31 juillet dans l'Aveyron, Festival en Bastide. Et à Augerolles le 4 août. Et voilà, on n'a pas surchargé le planning de l'été puisque on a eu une petite fille il y a 4 mois et on avait envie de passer du temps avec elle.
Parfait. Ben, merci beaucoup et bonne chance pour le Tetris.
Merci.
Par la suite, j'ai pu assister au spectacle de la compagnie Dolphin Apocalypse. Son nom, c'est Objectif Miami. Elle se présente, elle et leur spectacle, tout de suite.
Eh bien, alors nous, on est les Dolphin Apocalypse et notre spectacle s'appelle Les Dolphin Apocalypse, Objectif Miami. Alors moi, je suis Laurine Clochard. Donc dans la compagnie, il y a aussi Hélène Godet, Eva Foudral. Et on est toutes les trois à la fois metteuses en scène, à la direction artistique de notre compagnie et comédienne. Donc du coup, ça c'est un spectacle en fait où on a invité un metteur en scène qui s'appelle Pascal Laurent à venir nous rejoindre sur cette création collective qu'on a du coup pensée ensemble et écrit avec lui et tout ça.
Pensée écrit, ça s'est fait en quelle année ? Puisque là on est en 2023, ça fait combien de temps qu'il tourne ?
Il tourne depuis 2019 sous cette forme-là, la forme rue. Et en fait, avant, il avait joué pendant 2 ans en version salle. Donc, il jouait dans des salles de théâtre. C'était une version beaucoup plus classique. Et,
plus propre, finalement.
Beaucoup plus propre.
Voilà. On a eu envie d'un truc plus punk. On s'est dit, en fait, ça nous va pas, cette forme en salle. C'était beaucoup quatrième mur, etc. Et du coup, alors qu'on n'y connaissait pas grand-chose à la rue, on s'est dit, mais en fait, on pense que ça va redonner un gros virage au spectacle et on a tenté ça et on est très très convaincus maintenant par cette nouvelle forme quoi.
Le spectacle lui il existe depuis 2019 mais les personnages et la compagnie et le nom les Dolphin Apocalypse ça c'est 2016.
Est-ce que quelqu'un peut me résumer vite fait en quelques secondes la pièce ?
Ça raconte l'histoire d'une traversée à la rame en barque des Dolphin Apocalypse qui sont une équipe de nageuses synchronisées qui partent pour Miami depuis Royan. Sur une carte, elles ont vu que c'était à peu près tout droit, alors elles sont parties à la rame et elles veulent participer au concours des meilleurs talents, The Biggest Show of the World, The Incredible Competition of the Best and Biggest Show, voilà, c'est ça exactement le nom, qui se déroule à Miami et elles comptent bien gagner avec leur show de natation synchronisée, sauf que entre l'envie d'y être et leurs espoirs, il y a quand même tout l'océan à traverser entre temps, et du coup le spectacle raconte le voyage.
Moi ça m'a fait beaucoup penser à un film qui s'appelle Les Crevettes Pailletées, je sais pas si vous connaissez, et je me demande s'il y a des petites inspirations, des petites choses chopées dedans, je sais pas.
C'est eux qui se sont inspirés de nous. Ils ont surfé sur notre vague hein. Attends,
est-ce qu'il y a eu des royalties demandées?
Non, on est comme ça, nous, tu sais.
Qu'est-ce qui a été adapté du coup entre la version en salle, la version extérieure ? Qu'est-ce qui a changé ?
Le rapport au public, notamment, qui a beaucoup déconstruit la manière de raconter l'histoire. Parce que du coup, dans la version salle, enfin la version théâtre de salle, parce que salle, on dirait que c'est propre, pas propre, mais bon, enfin la version de salle, on était beaucoup en quatrième mur et c'était assez cinématographique. On utilisait beaucoup les noirs pour raconter le temps qui passe, etc. Et du coup, de le passer en rue, on avait la contrainte de la difficulté de faire des ellipses temporelles et du coup, on s'adresse directement au public. En fait, on assume le fait qu'on est en train de raconter une histoire et parfois on revient en arrière pour revivre la situation. Et du coup, ce rapport-là au public direct et franc, ben, ça amène un côté beaucoup plus... je sais pas, plus direct, plus punk, plus drôle aussi.
Plus vif.
Et plus ancré sur ce qui se passe au moment où on joue. Et du coup, nous, ça nous anime tout le temps davantage, quoi. On n'est pas du tout dans un mode de jeu mélodramatique.
Et puis, ça nous plaît beaucoup plus aussi, là, de jouer ça comme ça, parce qu'on reçoit énormément du public. Et ça, c'est trop chouette de pouvoir jouer avec ce que les gens proposent aussi. C'est super.
C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de spectacle vivant, parce que ça, il évolue à chaque fois. Est-ce qu'il y a encore des évolutions qui sont à venir? De toute façon, c'est pas toujours prévu, mais il y a déjà des idées?
Des évolutions, oui, parce que depuis qu'on tourne ce spectacle, on a envie d'en faire une suite. Et là, on commence tout juste à le préparer. Ça y est, dans 2 ans, il y aura les Dolphins Apocalypse à la conquête de l'Ouest, qui sera donc un deuxième épisode. Et ça, c'est vraiment né aussi de tout ce qu'on... Enfin, du fait d'avoir tourné le spectacle et de l'avoir rodé, et que nos personnages existent de plus en plus. On a eu envie de leur inventer la suite de leurs aventures. Et donc, on va partir en voiture américaine pour traverser le désert américain. Et ça, c'est une sortie du spectacle en 2025.
T'as envie là de faire un deuxième opus, un deuxième épisode quoi, cette aventure des dolphins. C'est aussi beaucoup venu de notre envie, mais des spectateurs en fait, qui nous demandaient « Ah, mais du coup, vous êtes vraiment arrivés à Miami, comment ça s'est passé ?» Qui avaient envie d'en savoir plus. « Mais qu'est-ce qu'elles vont faire après? Est-ce qu'elles vont retourner à Royan ?» Enfin, qui étaient vraiment complètement rentrées dans la fiction. Est-ce qu'elles ont fait le concours? Est-ce qu'elles l'ont gagné ou pas? Et du coup, nous, en fait, on s'est dit « Non, mais en fait... » Nous, on a envie d'en savoir plus, les gens aussi, donc il faut qu'on continue. D'où le fait que là, sur le deuxième opus, ça va être vraiment... Elles partent d'est en ouest, donc dans une voiture américaine, traverser le désert avec, du coup, tous les clichés du road trip. Après, l'odyssée, la traversée, maintenant, ça va être le road trip, le western, le rapport au désert, voilà.
Et en fait,
le paranormal... Oui.
En fait, ce qui nous plaît aussi dans les Dolphins Apocalypse, c'est qu'on présente 3 personnages féminins qui sont des héroïnes et qui vivent aussi des aventures fantastiques, aussi d'amitié. Enfin, il y a un lien fort entre les 3 personnages qui sont en fait prêtes à tout pour réussir leurs rêves. Et du coup, c'est des personnages qui sont aussi drôles par leur conviction hyper forte et rien ne pourra les arrêter.
Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi qu'aujourd'hui, j'ai vu 5 personnes d'entre vous, toutes des femmes. Est-ce que c'est un choix de la compagnie d'avoir une compagnie de femmes, ou alors c'est juste le fait que ce spectacle se passe comme ça?
Alors, tout à l'heure, on disait qu'on avait été accompagné par un metteur en scène. Lui, c'est vrai que c'est le seul homme de l'équipe. Et c'est important pour nous, là, de tourner qu'avec des femmes, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est pas pareil d'arriver sur un festival et d'être toute une équipe de meufs, notamment. Là, on a du coup Yuna Villanet qui, elle, est sur la régie, et puis Audrey Bonnet qui est notre chargée de diff. Et on se rend compte que c'est sûr que ça n'a pas le même impact que quand on est 4 ou 5 à monter la barque qui est impressionnante sur le toit de la voiture. Et ça nous plaît bien aussi de renvoyer cette image là aussi.
Et puis pour la création du deuxième opus, justement, où là on va plus avoir une barque de 3 mètres de long mais une voiture de 6 mètres de long, on monte encore un cran. Et c'est vrai que ça faisait aussi partie des enjeux de se dire, en fait, les compagnies de rue qui font des très gros spectacles avec des très gros scénos, qui sont des voitures ou de la mécanique ou des choses comme ça, c'est souvent des compagnies qui sont dirigées par des hommes qui font de la rue depuis 20 ans. Et qu'en fait, on s'est dit que ça nous plaisait bien aussi de pouvoir être une compagnie de meufs qui fait des spectacles avec de la régie et de la technique on arrive avec notre bolide et puis c'est un peu impressionnant, quoi.
Et puis c'est vrai que dans ce deuxième opus, on a aussi envie de charrier des images d'Épinal un peu qui sont souvent qui tournent souvent autour des hommes, de la masculinité, notamment le rapport à toutes ces images, la voiture, la mécanique, les effets spéciaux, parce qu'on a envie d'avoir des effets spéciaux de fumée, de fuel, peut-être de la pyrotechnie et tout ça. Et ça, c'est vrai que souvent, quand on pense à ça, on imagine que c'est des hommes au plateau, et donc nous, on a envie...
Et des personnages masculins, quoi.
Et des personnages masculins, ouais. Donc nous, on a envie de changer tout ça.
On veut montrer des personnages féminins qui sont pas définis dans des rapports ou amoureux avec des hommes, etc. C'est vraiment des personnages qui évoluent avec d'autres personnages féminins.
Et nous, on parle pas de mecs, on parle de dauphins.
Voilà.
Et puis en plus de ça, c'est aussi un truc qui nous plaît, mais même avec ce premier spectacle, qui nous plaît beaucoup, d'arriver... hyper girly, pailletée, maquillée, où tout de suite on a l'impression que ça va vraiment être un spectacle de petites meufs un peu cliché, et qu'en fait très vite on se jette des seaux d'eau, on se salit, on se bat, ça devient violent et on va loin dans la salissure et tout ça, aussi pour déconstruire cette image-là qu'on a créée au début. Donc c'est vrai que souvent quand les gens nous voient passer au début et qu'ils croient que ça va juste être ça, mais attendez de voir la fin du spectacle, on rira plus.
Oui, en fait l'épaisseur des personnages elle se crée vraiment au fur et à mesure du spectacle, on donne de l'émotion et de l'intensité vraiment au fur et à mesure du spectacle.
C'est toujours une joie de se salir, de balancer de la mayonnaise sur l'autre, de se foutre du sang partout. Il y a des jours, il y a peut-être un peu plus la flemme, il n'y a pas envie. Ou alors, est-ce qu'il y a vraiment des vacheries entre vous où j'en mets plus que la normale, j'arrose, je règle des conflits.
Non, je rigole. Non, moi, pour ma part, moi, je trouve ça toujours aussi plaisant de se salir, d'être dégueulasse, de, en plus, passer vraiment une heure et demie à se maquiller nickel pour, au final, ressortir vraiment dégueulasse. Moi, je trouve que c'est hyper agréable. Et puis, en fait, dans la réaction des gens, c'est aussi super de voir comment, on se mouille, ça fait quelque chose, on se salit, on se met de la maillot, on se touche les unes les autres pour s'enduire la maillot, et ça, moi, j'adore.
Mais en fait, ouais, c'est moi j'ai plus la flemme de faire le maquillage, parce que tu sais, tu te mets du fond de teint, ça fige vraiment, c'est pas agréable quand on joue tôt le matin et que tu te lèves et que c'est limite la première chose à faire, à te maquiller énormément comme ça. Moi, c'est plus ça qui me fout la flemme. Que limite, j'attends le seau d'eau, on l'attend toutes parce que quand il fait chaud, ça fait du bien, ça nettoie, enfin, ça fait. Ouais, c'est pas la salissure, moi, qui me stresse.
Après, on peut pas se faire trop des blagues en rajoutant des choses ou en se piégeant, parce que c'est quand même un spectacle. Donc cette barque, elle bouge, elle est sur des bouées, et même si maintenant on maîtrise bien, c'est quand même un élément de scénographie qui est un peu périlleux. Et nous, on n'est pas cascadeuses de formation, pas du tout, et pourtant on fait des cascades dans ce spectacle. Et donc il y a aussi un endroit où on peut pas non plus se permettre de se faire des blagues qui nous mettraient en danger, parce que c'est quand même un peu... Voilà, on ressort toujours avec 2-3 bleus donc il faut faire un peu attention quand même.
Il y a un truc d'équilibre, en fait, comme on est 3 dans la barque, ou des fois 2 quand il y en a une qui sort, on est tout le temps connectés, et le mouvement de l'une va influer sur le mouvement de l'autre, donc on peut pas... On est quand même assez... De par la scénographie, on est un peu obligé d'être soudés, connectés, et c'est pas... Ouais, on peut pas faire des blagues vacheries mises en péril, on n'a jamais fait ça. On n'a pas trop envie.
Pour décrire la scénographie, c'est une grande barque, mais non, c'est une barque sur deux grosses bouées qui sont sûrement des chambres à air de tracteurs.
Exactement.
Ou quelque chose comme ça.
Ouais, c'est ça.
Il n'y a pas eu d'accident encore. Il n'y a pas eu des grosses frayeurs, des gens qui se cognent et qui se réveillent pas pour la fin du spectacle, non.
Il y a eu une chute de l'une d'entre nous, dont je tairai le nom, qui est tombée pendant une scène de tempête violente, qui est tombée de l'avant du bateau.
Une terrible tempête.
Terrible.
Et elle est tombée à l'avant du bateau, elle a fait une espèce de roulade, mais pas par le dos, par le buste, donc avec le cou qui s'est un peu tordu. Donc là, on a tout de suite eu assez peur, on est allé jusqu'au bout du spectacle, et après c'était un peu panique, mais il n'y a rien eu de grave, il y a eu plus de peur que de mal.
Pas besoin de faux sang.
Là, il n'y a pas eu de sang. Non, là, je pense que s'il y avait eu du sang, on aurait peut-être dû s'arrêter. Mais on se fait quand même un peu mal des fois.
Ouais,
tranquillement.
Après, c'est quand même. Ça fait quand même. Du coup, depuis 2016, qu'on tourne avec cette barque, et on commence à bien l'appréhender. On sait comment elle bouge. On sait, en fonction de la chaleur, les bouées, elles sont pas gonflées de la même façon, puisque ça prend pas le même.
Oui, même les regonfler à chaque fois.
Non, on les transporte gonflées. Et du coup, on est quand même de plus en plus habitués. Et c'est pas autant les premières semaines de répétition, on avait un petit peu le mal de mer. À force d'y passer des journées entières. Là, aujourd'hui, quand même, à part cette chute qui, au final, s'est bien finie, il n'y a pas d'accidents qui sont dus à la barque.
Non, oui, je me demandais, est-ce que les rôles sont interchangeables, ou est-ce que vous avez toujours le même rôle, ou est-ce qu'il y a des remplaçantes des fois qui arrivent?
Oui, eu des petites, il y a eu des remplacements, notamment l'été dernier, parce que il y a eu un bébé dauphin qui est arrivé dans l'équipe, donc on a fait un remplacement pendant un été. Et en début d'été, il y a eu aussi un autre bébé dauphin qui est arrivé. Et donc, pour honorer les dates de printemps, début d'été, on a aussi fait... On a refait un changement de rôle. C'est-à-dire que la personne qui avait pris le rôle de Dark Blue Baby l'été dernier est revenue reprendre le rôle de Dark Blue Baby. Et Laurine, qui était absente l'année dernière, a pris le rôle de Wavy Bangui.
C'est ça.
Et là, ça y est, on a repris la forme originelle et nos personnages. Mais maintenant, on fait vraiment des blagues sur le fait que ça pourrait être rigolo de pouvoir changer. Mais je pense pas qu'on le fera.
On a un peu envie. On s'est dit peut-être que dans un moment, à force de l'avoir joué, on aura peut-être envie de même tirer au sort qui on jouera. Parce qu'à force là, de le jouer, on connaît les répliques des autres. Et on a un peu envie aussi peut-être de tenter ça dans quelques années.
Ouais, ça peut faire du bien, un peu de rafraîchissement.
Ouais. Mais en même temps, on est attaché à nos petits personnages quand même.
Ouais, mais bon, ouais. Vous avez fait une mini pause. Moi, j'ai envie de tester un autre personnage. Hein.
Il y a que Laurine qui connaît plusieurs versions du spectacle pour l'instant.
Ce spectacle, du coup, il tourne tout l'été, j'imagine ? Ou alors vous avez d'autres spectacles en tournée aussi ?
Avec les Dolphins Apocalypse, il n'y a que ce spectacle pour l'instant que l'on tourne l'été. Enfin, ça va jusqu'à octobre, quand même. On arrive à faire des dates jusqu'à mi-octobre. Et après, chacune de nous travaille avec d'autres compagnies ou collectifs qui font aussi des spectacles de rue. Voilà.
Est-ce que c'était votre première fois en Lozère ? Ou vous étiez déjà venu ?
Non, première fois en Lozère.
Est-ce que ça donne envie, le public lozérien, de revenir ?
À fond. Ouais. Moi, je pensais pas, il y avait autant d'accents à Lozère.
Il y a autant d'accents que ça ?
Bah non,
là,
il y a un
là,
peu
je
trop.
Suis pas trop tout à fait.
Mais d'ailleurs, j'ai fait un accent allemand au lieu de faire un accent anglais.
Ah, mince.
Bon, j'ai des pogs.
Mais c'était la première fois qu'on venait et franchement, ce festival est un festival incroyable.
Il est marvelous.
Venez à Marvelous.
Il est Marvelous Pop. Il est trop bien ce festival.
Non, c'est vraiment super. On a été hyper bien accueillis. Enfin, trop trop bien. Et puis là, on a joué deux fois, deux parterres de spectateurs, super à fond. Ça, non, on est trop contentes.
Ça manquerait presque de place même, je trouve.
Ouais, c'est clair. Ouais.
Mais on espère revenir en Lozère l'année prochaine. On est dispo. Vous pouvez nous écrire à lesdolphinapocalypse@gmail.com.
On est sur les réseaux sociaux, lesdolphinapocalypse, Instagram, Facebook. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez une piscine, un petit étang, un bout de rivière ou envie de nous faire venir pour un barbecue
ou un parking
où on est preneuse de tout, ou un festival ou ce que vous voulez.
On amène Miami partout en France.
Voilà.
Et on est à la recherche de résidence pour le Dolphin Apocalypse 2 aussi.
Bah merci beaucoup et bonne fin de journée à vous.
Merci.
Et bon festival.
Merci.
Et ben voilà, merci Léo. Le message est passé. En tout cas, je remettrai leur adresse mail sur notre site internet dans un instant. On repartira et on prolongera le plaisir du Marvelous Pop Festival ce mercredi parce qu'on a encore quelques reportages sous la botte. Et c'est la fin de cette matinale. On se retrouve mercredi. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Restez bien sur Bartas. On n'y est pas trop mal. On se quitte avec Chaka Punk. À mercredi. Ciao. People
on se croise de moins en moins dans les lieux connus, on se cloître de plus en plus dans les lieux communs. J'aime pas les gens, ils me le rendent bien, c'est sûr. J'aime pas qu'ils me défigurent, j'aime pas qu'ils me défigurent. J'aime pas qu'ils envisagent de se glisser en coulure derrière mon maquillage, entre moi et l'armure. J'ai pas le temps et ils n'entendent rien, c'est sûr. Les gens comprennent, les gens bons pour
pas d'écho sous mon écorce. Ce qui s'étale en littérature, sachez que moi quand je balance mon porc, c'est dans un vide ordure.
Les gens se soulagent dans de petites aventures, des lits mineurs anodins, des saccages sans lendemain.